Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde. Je vois que tu as mis ton plus beau t-shirt gris. Nous sommes une fois de plus pareillés.
Ouais, effectivement, team gris, voilà, le show gris. Bah, en tout cas, ceux qui font grise mine, c'est ceux qui regardent Monday Night Raw et certainement pas ceux qui regardent SmackDown Live. Puisque, écoute, là, je suis plutôt content, je suis ravi. Et pas qu'un peu, parce que avant d'enregistrer l'émission, j'ai eu le temps de regarder le main event de 2 of 5, celui qui t'a enregistré juste avant.
Oui.
Gros match de championnat entre Cédric Alexander et Buddy Murphy. Écoute, c'était un match 5 étoiles, tout simplement, il faut
tout
le dire.
Tout simplement.
Et du coup, comme ça s'est enregistré juste avant SmackDown Live, eh ben ça va jouer sur ma note de SmackDown, tu vas voir, c'est de la triche.
D'accord.
Ah, mais en tout cas, je vous le conseille, hein, c'était vraiment, ça sentait bon de façon, avec Buddy Murphy qui revient au top. Hein. Le mec, il a perdu 50 kilos là, pour entrer dans la division et... Ça se passe plutôt bien du côté du show violet depuis le départ d'un certain rappeur. Donc, on est pas mal. Allez, on retourne au show bleu.
Eh ben, écoute, on retourne au show bleu.
Alors, dans cet épisode de SmackDown Live, le crayon de Shinsuke Nakamura ne fonctionne pas. Carmella fait tomber le masque d'Atsuka. The Miz plonge sa main innocente. Et Big Cass nous prend de haut. On était à Corpus Christy, dans le Texas. Exactement. On commence à connaître.
La géographie,
tous ces États américains, les lieux, on retrouve en façon les mêmes villes d'une année à l'autre. Nous étions dans l'American Bank Center Arena, environ 5000 places. Voilà, donc on voit vraiment, maintenant que je tiens le carnet de route du show bleu, la semaine dernière c'était 15 000 places, et là on est à 5000.
Ah oui, c'était tout petit.
C'était petit, c'était minuscule, mais ils ont quand même mis le feu, ils ont quand même mis la grosse ambiance hein, dans cette petite arène. Alors, c'est Carmella qui ouvre le show. Une femme est à l'honneur, Carmella la championne. Elle nous explique qu'Atsuka n'est pas celle que l'on croit. Et elle met un petit package vidéo pour nous montrer qu'il y a eu un avant et un après WrestleMania. Tu te souviens, Giscal, on l'avait vu en direct, la fin de la streak, quand bien même c'était un très beau moment. C'est vrai que depuis, Atsuka, elle est venue à SmackDown, et alors, voilà, il y a du contexte, mais voilà, elle a perdu, ou elle s'est retrouvée à chaque fois vouloir aider ses copines, et en fait, ça a entraîné la défaite, etc. Donc, en ce moment, ça marche pas très bien pour Atsuka, donc elle nous passe quelques vidéos, c'est plutôt bien monté, hein, c'est de la mauvaise foi comme on aime. Carmella n'a pas peur, Carmella, elle nous rappelle que Mella is money, money in the bank approach, ça on le saura, merci madame. Atsuka, elle était undefeated, maintenant elle est just defeated, donc effectivement on est loin de la streak. Et si avant personne n'était prête pour Atsuka, maintenant tout le monde est prêt pour Atsuka, même nous dans le public. Une belle promo là. Même toi dans le public, alors elle prend à partie un spectateur. Et puis voilà, c'est le WWE Universe après avoir été champion tag team. On va peut-être un jour être champion de la division féminine, va savoir. Et c'est pas tout. Est-ce qu'Atsuka vient tout de suite? Ouais, ou c'est Mandy qui vient?
Oui, quasi. Si.
Atsuka débarque. Atsuka débarque, en fait, elle ne dit rien, c'est pour ça. J'ai rien noté parce qu'elle ne dit rien. Elle n'a pas le temps de répliquer que la musique érotico M6 feuilleton, après, c'était quoi? C'était après Culture Pub, je crois, qu'on avait droit à notre petit feuilleton coquin sur M6. C'est un ami qui m'en a parlé. Mandy, la belle Mandy Rose vient réclamer son match retour, elle qui était à deux doigts de gagner. J'aime bien, c'est toujours marrant. J'ai failli te battre la semaine dernière. redonne-moi, j'ai droit à un rematch. Sonya Deville veut la même chose, elle veut aussi sa part du gâteau. Et Carmella dit effectivement, Atsuka undefeated, elle aurait pu affronter les deux à l'époque, mais maintenant qu'elle est defeated, on a la defeated Atsuka comme on a Corporate Kane. elle appelle, qu'elle rentre chez elle, quoi. Elle appelle un Uber, elle rentre à la maison, ça sert plus à rien. En tout cas, c'est fini, c'est du passé. Hein. Et là, on a Paige qui débarque, hein, notre gemme préférée, notre gemme favorite. J'exagère en disant ça. Hein. Elle arrive, elle rappelle que c'est elle qui décide des matchs et non pas Carmela. Alors là, c'est assez bizarre parce qu'elle nous rappelle qu'elle, c'est elle qui décide des matchs. Grosso modo, c'est elle la patronne, hein, Paige. On est d'accord.
Oui.
Mais elle demande à Atsuka de choisir son opposante. Donc, bon, c'est pas vraiment elle qui décide finalement. Atsuka, bah, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit les deux. Et du coup, on va avoir un handicap match entre Atsuka et Mandy Rose, accompagnée de Sonia, avec Carmella au commentaire, qui va faire du bon boulot au commentaire, là, bien aidé par Corey Graves, qui il est amoureux aussi. Hein, il est un peu amoureux de toutes les
Un
quatre
petit
choses en ce
peu.
moment, Corey Graves.
Oui. Il fait une sorte de Jerry Lawler des temps modernes, un peu,
Ouais,
là.
attention, hein. Je sais pas si c'est le
Je sais pas si
meilleur
c'est la meilleure inspiration.
inspiration exactement. Alors qu'on salue, hein, tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, Samuel et Pitgoul. Voilà, faut pas que
Et
j'écorche son
Galuf
nom.
aussi, bonjour
Galuf est
Galuf.
là, oh là là, voilà. Donc, sur mon retour, je n'avais pas vu tout le monde. Il va falloir se sceller, les gars, dans le petit studio de Ketchup. Allez, travail de sape, hein. Donc des deux méchantes. Provocation, hein, ensuite de Carmella pour déconcentrer Atsuka. Elle célèbre sa petite manigance en faisant un gros moonwalk elle, sur la table des commentateurs. Retour en force d'Atsuka. Mandy Rose est neutralisée. Énorme double kick. Là, on bascule un peu dans un deuxième match qu'on a un duel entre Sonya Deville et Atsuka que j'ai beaucoup aimé. On a un énorme double kick des deux qui s'annule mutuellement, qui se neutralise. Atsuka se mange vraiment la basket là, de Sonya Deville. Elle est allongée. Sonya Deville, pareil. Échange de prise au sol. On a plein de comptes. C'est pas mal du tout ça. Même si Sonya Deville est encore verte, il y a un gros potentiel. Et à la fin, heureusement, victoire de la japonaise par soumission. Carmella arrive et vient nettoyer tout ça. Bon, écoute, on n'a pas beaucoup de temps pour booker cette rivalité, mais finalement, c'est pas trop mal. Atsuka versus Carmella. On utilise les deux autres rookies là pour un petit peu faire monter la sauce. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon Giscal?
Alors, j'en ai pas pensé que du bien.
Ah, j'ai détesté. Faut vous dire.
Non. C'était là. J'ai trouvé que la promo de Carmella était très sympa.
Ouais.
J'ai trouvé que la promo de Carmella était top. On lui a donné des bons petits. On lui a donné un bon petit texte. On lui a donné des bonnes répliques.
On leur donne des bons textes aux anciens de la Team Soft, hein.
Ouais, voilà, exactement. Exactement, tu fais bien de le rappeler. Donc écoute, elle s'en est bien sortie. Il y avait des bonnes idées. En fait, j'ai bien aimé le package vidéo qui nous a remis un petit peu en fait en tête cette spirale négative dans laquelle est Asuka. C'est vrai que c'était peut-être passé, c'était pas passé inaperçu hein, parce que tout le monde sait que voilà sa streak a été brisée à WrestleMania, mais on s'était peut-être pas non plus rendu compte à quel point c'est vrai que en fait depuis WrestleMania Asuka c'est pas ça quoi. En fait c'est vrai qu'elle est souvent impliquée dans des segments ou dans des matchs où elle perd où c'est pas forcément c'est pas brillant, elle se fait tabasser et tout ça donc c'est vrai que Asuka c'est plus trop ça, c'est plus elle a perdu de sa majesté hein, de son lustre, de son aura et c'est plutôt pas mal de la part de Carmella voilà de remettre un peu le doigt dessus en disant bah écoute toujours avec cette ultra mauvaise foi hein, d'exagérer à fond et de dire elle a battu Charlotte, qui a battu Asuka, donc du coup elle est deux fois meilleure que Asuka et Asuka maintenant elle est defeated, mais là is money et tout donc ouais il y a toujours ce petit personnage un peu bitchy, un peu over the top qui est pas mal. Tout le monde est prêt pour Asuka, c'était très bien. L'arrivée de Mandy et de Sonya Deville aussi c'était pas mal. Et alors c'est vrai que moi je trouvais que du coup l'idée était très très bonne de voir Asuka du coup défier les deux. Parce que c'est ça en fait, la Asuka qu'on connaît, c'est clairement, elle aurait fait ça. Donc du coup, Asuka, voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle aurait défié les deux tous les jours. Sauf que là où ça bloque, moi après, c'est le match derrière. C'est qu'en fait, c'est ce que la Asuka du passé aurait fait. Mais moi, je trouve que la Asuka d'aujourd'hui, je ne sais pas si je l'aurais fait gagner en fait, ce match-là. Parce que justement, c'était intéressant de voir cette transition quoi. Depuis WrestleMania, Asuka c'est plus vraiment la même. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant de voir justement une Asuka qui pense encore en fait être toujours la même, la combattante et de pouvoir sans problème manger, croquer Sonya Deville et Mandy Rose et du coup demander le match. Mais Elle est peut-être plus capable de gagner ces matchs-là et j'aurais bien aimé la voir perdre ça, peut-être par excès, je sais pas, ou tout simplement parce que voilà, 2-1, c'est pas évident. Parce que là, au final, elle a gagné assez clean. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu contre-productif par rapport à ce qu'on essaie de raconter, parce que on a une championne qui est complètement imméritante et qui est beaucoup plus faible. Et du coup, c'était une belle occasion peut-être de remettre un petit peu de suspense aussi dans ce match. De montrer une Asuka peut-être qui doute, qui est un peu plus faible, qui justement en effet, qui la championne est un peu dans sa tête. Elle a raison la championne de souligner que Asuka n'est plus la même. Bah si, parce que finalement à 2-1 elle gagne les doigts dans le nez quoi. Donc voilà, j'ai pas aimé ce résultat parce que je trouve que c'est un peu c'est contre-productif par rapport à la bonne promo du début. Voilà, c'est ce qui m'a un peu gêné. Après, écoute, la dynamique, le match était bon, la promo était bonne, pas grand-chose à acheter. Voilà, moi, j'en demandais peut-être un peu plus.
Ouais, bah c'est un peu délicat parce que à un moment donné, il faut quand même la. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin de faire vraiment gagner celui qui est censé être le plus fort avant à un moment donné avant le
Justement, non.
pay-per-view quoi. Non, t'as pas besoin si c'est bien raconté. Ça peut être un peu difficile à raconter d'ailleurs. C'est pas, il faut
Non.
user et abuser de situations. C'est vrai que là, il y avait quand même une stipulation qui s'y prêtait finalement. Le 2
Oui.
contre 1, il n'y a pas de honte à perdre un 2 contre 1 que tu n'es plus à 110%, à 100%, quoi, que tu dois un petit peu te ressaisir. C'est vrai que. Alors après, le truc, c'est qu'elle s'est retrouvée en plus en un contre 1 à un moment donné, quoi. C'est vrai que t'as Mandy Rose qui s'est fait un petit
Oui,
peu neutraliser, du coup, à la fin,
mais
ça s'est
donc elle a bien
transformé
joué le
vraiment en
coup.
duel, et là, ce duel, elle l'a gagné, il n'y a pas eu d'intervention et tout. Il n'y a pas eu de. En fait, dans ce match-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas créé un contexte finalement qui était en sa défaveur, puisque ça doit être un 2 contre 1, c'est
Oui,
quand même à tour
elle est
de.
assez quand même assez facilement isolée,
Voilà.
Sonya Deville, quoi, ouais.
C'est ça. Donc bon, écoute. Alors, ce qui reste à la fin, c'est que ok, elle a gagné, mais elle a pas pu célébrer sa victoire. Donc on a quand
Non.
même toujours une Asuka qui, même si là elle gagne, n'est pas la Asuka flamboyante qui effectivement élimine son opposant et en plus derrière le célèbre en gesticulant dans tous les sens. Mais c'est vrai. Bon, ils ont fait
Ouais,
un
je trouve ça un
choix
peu
là.
léger.
Ouais, ils ont fait un choix là de quand même la garder un petit peu forte dans l'esprit des gens et de renverser peut-être un petit peu le rapport de force là qui s'était créé au début de la promo. C'est vrai qu'il y avait deux, il y a eu deux intentions totalement opposées le même soir. Donc d'habitude on prend un peu plus son temps et puis on va le faire peut-être sur un d'une semaine à l'autre quoi. Hein, donc
Écoute, peut-être, on va voir, parce que c'est vrai qu'elle part quand même très largement favorite face à Carmella,
ouais.
qui n'a pas d'alliés. Les Iconic Duo sont aux abonnés absents, elle n'a pas d'alliés, il n'y a pas de stipu, il n'y a rien. Enfin, c'est vrai qu'elle est très, très largement favorite à Asuka sur ce match. Donc, bon, voilà, ouais, j'ai pas trop apprécié le résultat, mais bon,
Ouais, on
écoute.
va voir la semaine prochaine un petit peu ce qui rajoute un petit peu dans la marmite. Parce que c'est vrai, bon, elle n'a pas d'alliés, mais Asuka a un petit peu toutes les heals rookie ado. Donc pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça, mais effectivement, là clairement, la cible est bien sur le front de Carmella. Une autre cible qui est sur un front, c'est celle sur la division tag team. Alors, c'est sur carrément toute la division tag team, vu le peu d'intérêt que portent les scénaristes à cette division qui a fait les grands jours
Oui.
du show bleu
Oui.
en
C'est ouais, là, c'est tout chaud
2016.
confondu là.
Oui, alors là, effectivement.
Hein.
Après, là où pour nous, c'est un peu plus grave, c'est quand même qu'on a récupéré ce qui se fait de mieux en tag team et qu'on
Ouais.
n'est pas foutu d'en faire quelque chose de bien. La preuve ou presque, puisque ce soir, enfin, on a les champions qui viennent se montrer. Autrement qu'en hackant la télévision, le poste de télévision, Harper qui affronte Luke Gallows, non, Karl Anderson, pardon, grosse claque de Luke Harper pour commencer, hop hop hop, tournicotis, tournicoton, il fait ses gros moves, Luke Harper, dont d'ailleurs on a partagé une vidéo très touchante sur le catcheur, hein, à www.com, là ils font des petites vidéos de qu'est-ce qu'ils étaient avant, quoi. Ça c'est marrant, le timing, tu vois, c'est étrange, hein. On nous vend des monstres, et pendant ce temps-là, tu vois, sur le site officiel, on fait des petites vidéos où il pleurniche en retrouvant son premier maître de stage. Bon, bref. Mais roll up, et oui, roll up du Good Brothers sur le Blue John Brothers, et victoire inattendue de Carl Anderson. Harper n'est pas content du tout, du tout, du tout. Sa tête est prête à exploser. Les commentateurs nous expliquent que oui, en un contre un, d'accord, ça peut sur un malentendu, ça peut passer, mais que les Blue John Brothers règnent tel un nuage noir au-dessus de nos têtes sur la division tag team. On les croit, puisque c'est probablement ce qui va se passer à Money in the Bank. Mais bon, voilà, hein, clairement, cette division est un peu laissée pour compte. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette division tag team? Bon, Giscard.
Bah pas ça déjà, ouais, faut leur donner un peu, enfin je sais pas, donner un peu plus de temps, booker des matchs plus longs, non c'était pas bon. Alors oui, c'est du booking ultra classique, les challengers on propose un match de 1 contre 1, les challengers arrivent à choper une victoire parce que les champions sont, enfin voilà, sont plus dominants en tag team. Ça a été très largement souligné pendant le court match, hein, aux commentaires par Corey Graves. Ok, moi ça me donne pas spécialement envie de voir le match en fait. Et au final tout l'intérêt c'est ça, c'est savoir est-ce qu'on a envie de voir un match entre les deux équipes. Non, parce que pour l'instant, les Good Brothers, on n'en fait pas ce que j'attendrais. Voilà, je m'attendais à un reboot plus franc. Je pense que il y a moyen de proposer un match compétitif entre Karl Anderson et Luke Harper. Karl Anderson, c'est pas n'importe qui. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait gagner en filou en 2 minutes comme ça. Je suis pas partisan, voilà, je suis pas fan de cette volonté à tout prix de surprotéger l'aura des Blood John Brothers. Il y a moyen d'avoir un match super compétitif entre ces deux équipes-là. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est vrai que voilà, on se fait déjà suffisamment chier à Raw avec la division tag team, avec une équipe complètement loufoque qui propose des matchs un peu, enfin d'ailleurs pas trop de matchs, hein, ils catchent pas souvent, mais enfin des trucs complètement what the fuck, et la compétition est très faible à SmackDown avec les Usos, avec les New Day, avec les Good Brothers, avec les Bludgeon Brothers. Moi j'ai envie que ça se frite, que ce soit plus costaud que ça, quoi. Donc non, ça m'a pas intéressé. Voilà, j'attends beaucoup plus des Good Brothers, enfin. Pas de eux, mais j'attends en tout cas plus des bookers. Il faut qu'ils profitent de cette opportunité qu'ils ont avec eux de les reboot mieux que ça, quoi.
Ouais, carrément, là, je suis d'accord avec toi, bon, clairement, c'est pas dans leur, ils ont rien à foutre de la division tag team à l'heure actuelle.
Non, aujourd'hui, il n'y a rien.
Et là, c'est vrai que, finalement, enfin, ils nous ont rien proposé, c'est vrai que, je suis assez d'accord, c'est vrai que Karl Anderson, enfin, on s'attend tous à ce que, voilà, ils ne gagnent pas, mais ouais, montrez-nous au moins un peu de compétition, c'est quand même, comme tu le dis, Karl Anderson, potentiellement, enfin, on était un peu en train d'essayer de nous les revendre comme des gars
Ouais.
bagarreurs, menaçants, et toujours ces mecs du
Avec
Japon,
l'expérience du
etc.
Japon,
Voilà.
ouais.
Et puis finalement, ouais, ils gagnent comme des jobbers qui gagnent sur un coup de chance un match par
Ah
an,
oui.
quoi. Donc,
Tu vois, si tu remplaçais dans ce match-là, tu les remplaçais par Fandango et Tyler Breeze, c'était la même chose, quoi. Enfin,
ouais.
voilà.
Ouais, non, non, ça. Là, petit carton pour la division tag team, qui du coup, là, on mélange un peu les divisions puisque on avait un match mixte ce soir. Backstage, Naomi et Jimmy posent dans les couloirs un peu sombres de l'arène. Là, je sais pas pourquoi il n'y avait pas de lumière dans cette arène de 5000 personnes. Et nous souhaite la bienvenue au pénitencier. Alors ça nous rappelait un petit peu les vidéos promo qu'ils faisaient pour le Mixed Match Challenge. On est un peu, on est à ce niveau-là. Et donc ce soir, on a un match entre Naomi et Jimmy qui affrontent donc Aiden English et Lana. Alors, Aiden English qui fait la petite introduction évidemment de Lana, Aiden qui est malmené hein, par Jimmy, les méchants qui feintent un moment, ils sont un peu blessés comme ça, et puis ils font genre oh là là on a mal, puis du coup ils veulent mettre un coup, mais en fait ils se prennent une fessée. Lana reprend ensuite le contrôle en torturant Naomi, on a un hot tag, Lana qui place une grosse claque là sur le frangin Ouzo, Naomi est pas contente, elle plonge sur Aiden English et Lana qui sont à l'extérieur du ring. Aiden English qui à la fin se bouffe le big splash du Samoan pour la victoire. Donc victoire là, du couple Naomi et Uso. Voilà, ça occupe, c'était là, ça les occupe. Rien à noter de particulier.
Non, ça m'a... Moi, j'ai trouvé ça sympa.
Voilà, divertissant.
Ça m'a pas déplu.
On est dans la prolongation de ce qui a été fait la semaine dernière avec le Dance Off.
Plus sympa qu'un concours de danse.
C'est plus sympa qu'un concours de danse, tu as raison. Et puis, on a Naomi et Lana qui seront au match du Money in the Bank. Monsieur Rusev Day, lui, quant à lui, sera dans le main event. On verra un peu plus tard. Mais voilà. Ça occupe un petit peu tout ce petit monde-là. Si tu veux bien, on va continuer, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette séquence. Une séquence, alors on va voir, je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. C'est une autre séquence qui se passait backstage, puisque ce soir, nous avions la signature de contrat dans les bureaux, cette fois-ci, entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Alors AJ Styles ne sort plus du tout du vestiaire, il vient plus sur le ring, ça fait un mois qu'il se contente d'être il mouille pas le maillot comme on dit. Alors donc c'est Paige hein, qui est là en maître de cérémonie pour la signature de contrat, chaque homme est accompagné de son avocat.
C'était pas des.
Au non, début, c'est pas des avocats, c'est des mecs du staff, t'as les producteurs, etc. Mais...
Il y avait Dean Malenko aussi, je crois, dans le truc. Au début, je croyais que c'était des avocats.
Ouais, mais au début, ils auraient pu faire ça parce que finalement, tu te dis pourquoi il y avait les deux. Pourquoi eux bon, allez, ça fallait faire un peu de figuration. Hein. De toute façon, c'est les hommes à tout faire. Hein,
faut pour les contenir, c'était pour les contenir.
Ouais, c'est ça. Les mecs savent que ça va partir en couille de toute façon, donc ils sont déjà là, prêts à les mettre en tenaille. AJ Styles donc qui nous fait sa promo. Alors, qu'est-ce qu'il dit déjà, je ne sais plus, qui va lui péter la tronche évidemment. Et il s'empresse de signer hein, le contrat. Et quand c'est au tour de Shinsuke Nakamura, à qui AJ Styles le dit, c'est fini les mind games. Ah si, il lui dit qu'en gros ça y est, il a compris pourquoi il agissait comme ça. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Voilà. Il sait que de toute façon, ils pourront faire 50 matchs. À la fin, il perdra toujours Nakamura. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait la tête à claque. Donc Nakamura continue du coup à faire la tête à claque puisqu'il prend son crayon. Et puis il fait « Oh, ça marche pas, il n'y a pas assez d'encre. » Alors du coup, il reprend le crayon. Et puis ben, voilà, il met pas du sien le japonais. Et du coup, évidemment, ça énerve AJ Styles qui finit par lui mettre une grosse baffe. Hein. D'ailleurs, il avait l'œil tout rouge, le japonais, après. Donc il dit, tu vas signer, il y en a marre maintenant. Donc Dean Malenko, les avocats du coup, Rochen et Gestals, retenez-moi au chemin malheur. Et Nakamura, à la fin, sort un petit stylo de sa poche, il en avait déjà un pour lui, et il signe le contrat. Le contrat est donc signé pour le pay-per-view. Qu'est-ce que tu as pensé de cette signature de contrat? Ça nous change, c'est vrai, parce que c'est souvent sur le ring.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
Et ben moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était le meilleur segment de leur rivalité, très clairement. Parfois il faut pas grand chose hein, pour juste donner l'impression qu'on assiste à un truc un peu original, un peu spécial. Tu vois, bah, en fait, c'est con. Il y en a certains peut-être que ça leur a fait ni chaud ni froid, mais le fait qu'on fasse une signature de contrat dans les bureaux de Page entre guillemets, bah moi j'ai trouvé ça super. Tu vois, genre ça change le cadre. Déjà, t'es un peu désarçonné, donc tout de suite t'es beaucoup plus intéressé par le segment. Tu te dis ah tiens, il va peut-être se passer quelque chose et tout. La promo d'AJ, elle est top parce que tu sens que c'est un champion qui est à bout de nerfs. Tu vois, genre, il nous fait une promo d'un mec sûr de lui, mais en même temps, il joue le gars qui va exploser. Donc, je trouve que sa promo était top. Alors, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'est moi qui surlis entre les lignes et tout? Mais ou alors, si c'était volontaire, je trouve qu'il a extrêmement bien joué le coup. Mais voilà, t'avais cette dissonance entre le discours qu'il était en train de débiter et son body language qui était, il allait exploser. Tu sentais que là, il était prêt à passer au-dessus de la table et pourtant il était en train de lui dire non mais de toute façon t'es pas une menace, je te domine, je peux te battre tous les jours de l'année quand tu veux, n'importe quel stipu et tout. Donc ça c'était très bien parce que tu sens qu'il est à bout de nerfs et en face là t'as la tête à claque ultime, genre vraiment, mais c'était génial. Genre mon stylo n'a plus d'encre, alors déjà là t'as envie de l'attraper, de lui en coller une, et est-ce que je peux avoir ton stylo machin, donc avec cet anglais horrible, donc c'était génial. Et donc voilà, et donc évidemment AJ Styles pète un câble, et à la fin la petite touche, c'est super là quand du coup il s'en va et Nakamura reste et il dit qu'il est le last man standing.
Ah oui.
Et donc ça je trouvais que c'était génial, c'est vraiment genre il est là, il sourit comme un niais à René Young, I'm the last man standing, et puis il signe le contrat. Et c'est bien parce que là, voilà, on raconte quelque chose. C'est beaucoup plus sympa que des promos backstage interposées qu'on avait depuis des semaines où ils se balançaient des banalités. Là, en fait, on capitalise sur ces semaines et ces semaines de low blow et de conneries et de Nakamura et tout. En effet, on est en train de raconter que le champion, il est en train de dégoupiller là complètement. Écoute, sur cette stipulation du last man standing où anything goes, ils vont pouvoir utiliser tous les objets de la terre, sortir du ring partout, y a moyen que, en effet, si AJ Styles perd son sang-froid, il fasse une erreur capitale, et dans une stipulation comme ça, ça peut coûter la victoire à tout moment, et c'est super. Et donc là, t'as vraiment, en plus, Nakamura est un, sur ce segment, un summum vraiment de. T'as envie de le frapper, quoi. Toute la terre a envie de le frapper. Donc c'est top. Là, tu as envie de voir le match et tu as envie de voir AJ Styles enfin lui faire fermer sa gueule, tout en ayant ce doute dans la tête de se dire aïe aïe aïe, c'est AJ, il est pas dans son élément, quoi. Tu vois, genre lui qui est toujours dans le contrôle. Donc c'était, moi j'ai trouvé que c'était génial. Ouais. Vraiment là.
Non, alors, moi j'étais un petit peu, j'étais pas forcément très convaincu par la séquence, le fait que ce soit fait backstage, c'est original et on n'a plus l'habitude. En fait, en soi, le principe, je le trouve cool de faire des, enfin de refaire un peu ces séquences un peu backstage, un peu old school finalement, hein, où t'es sur une espèce de plateau télé ou alors t'es sur dans les bureaux. Voilà, donc c'est un petit peu moins mise en scène, ça fait presque plus officiel. Enfin, il y a quelque chose de sympa, mais alors, après, ça restait quand même un peu cheap, quoi. Ça faisait, enfin, toi, avec le gros logo Money in the Bank, etc. derrière.
Oui, oui.
Du coup, voilà, j'étais pas forcément dedans au début, dans l'ambiance. Là où je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le côté psychologique qui a retrouvé de sa place, en fait. Parce qu'on est quand même censé être arrivé au bout de la rivalité.
Oui.
Et qu'il faut que les mecs, en particulier AJ Styles, parce que c'est lui qui doit péter un câble, hein, dans l'histoire. Mmh. Effectivement, il faut montrer qu'il perd complètement le contrôle de la situation. Et on nous racontait plus ça, en fait. On nous racontait plus ça. Et c'est vrai que ces interviews, là, de René Young, dans les couloirs, Rennes faisait régressait totalement. Il n'y avait plus d'intensité. On retirait toute l'intensité qu'il y avait. Qui avait été construite finalement au fur et à mesure. Enfin, c'est quand même un gros pari qu'ils ont pris de faire durer à ce point-là cette rivalité.
Oui, c'est vrai.
Pour jouer avec nos nerfs finalement en disant mais quand est-ce que ça va se finir ? Quand est-ce qu'il va enfin se débarrasser de Nakamura ? Ou à l'inverse, quand est-ce que Nakamura va enfin prendre le dessus ? Parce que son discours à AJ Styles, il reste vrai malgré tout. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'on a face à nous un champion qui a raison, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et finalement, je pense que quand bien même il voudrait vraiment, enfin, il veut se débarrasser de Nakamura une bonne fois pour toutes, mais t'as presque l'impression, je dirais pas que Nakamura fait exprès de perdre, mais Nakamura, ça l'amuse de ne
oui,
pas gagner, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Et lui, en fait, il est là, t'as l'impression qu'il est. depuis WrestleMania, il est arrivé sur cette terre pour faire chier AJ Styles.
C'est
en fait.
Ça.
C'est vraiment... et en fait,
ma mission
que,
divine.
Ouais, tu vois, il descend du ciel comme ça pour juste pour emmerder, pourrir la vie d'AJ Styles. Et je trouve que ce segment cristallisait en fait tout ça, qui du coup que oui, il est imbérable. Tu vois, genre, t'as envie de lui prendre la tête et de le fracasser contre la table. Alors après, bon, c'est vrai, oui, peut-être que ça faisait un peu cheap les faux bureaux de Paige.
Ouais.
Moi, il y a peut-être un autre truc, et je pense que il y a une autre raison peut-être qui devait expliquer ça, c'était que au-delà des difficultés d'anglais de Nakamura, le segment était quand même extrêmement précis au niveau de des gestes, des paroles, de il y avait beaucoup de petits détails dans ce segment, et peut-être que avec justement le mauvais anglais de Nakamura ou peut-être les réactions du public, ils avaient peut-être peur que finalement ce soit l'effet soit moindre si ça avait été en live devant le public dans le ring. Peut-être qu'on n'aurait pas entendu certaines punchlines, ou peut-être qu'on n'aurait pas bien compris le coup du stylo et tout machin, des trucs comme ça. Donc je me dis peut-être que c'était pas con d'avoir enregistré un segment comme ça, parce que ça a permis vraiment de le peaufiner, de faire un truc vraiment aux petits oignons. Donc peut-être que ça explique aussi ça, mais bon.
Après, moi, de toute façon, je milite ardemment avec moi-même pour un retour en grâce de ces séquences backstage, qu'elles soient et pas juste dans des pas juste des scénettes dans les couloirs, mais des choses qui se passent dans les bureaux ou même au diner qu'on avait Kane et.
Et oui, voilà, qu'on voit un peu des endroits différents.
Ouais,
tu
ouais,
vois,
ouais. Alors du coup, c'était vraiment un traitement particulier. Hein. Je sais pas si tu te souviens, quand tu avais Kane et Daniel Bryan, ils avaient pris un parti pris visuel qui était proche de la série télé, en fait, de la sitcom. Et du coup, c'est vrai que ça avait un côté
complètement.
surproduction. Ouais. Qui détonnait ouais. complètement avec le côté réel, caméra, c'est, enfin, la caméra est là, toi. Ils en ont conscience, c'est ce que là, c'était le côté série, la caméra est là, mais on n'en a pas conscience. Donc, on était vraiment dans le domaine de l'ultra-fiction. Mais il y avait quand même des choses comme ça qui détonnaient et qui faisaient qui variaient un petit peu, toi, parce que. Il y en a un petit peu marre de ces interviews dans les couloirs,
Ouais, je suis d'accord.
De ces journalistes qui viennent toquer à la porte, ou de ces trucs un peu selfie, là. Alors, ils sont plus en mode selfie en ce moment, là, où ils sont tout seuls, ça.
Non, mais justement, leur répète pas trop, là, ils le font plus en ce moment.
Ouais,
là,
pardon,
bon.
Pardon, j'ai rien à dire. Là, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté sympa, mais bon, le bureau de pêche, quand même, il faudrait qu'il leur travaille un petit peu plus, quoi, la peau.
Ça, c'est les bureaux, ils changent de stade toutes les semaines.
Ouais,
alors
c'est des bureaux portatifs.
C'est des bureaux, ouais, voilà, c'est des petites salles, ils prennent ce qu'ils ont de dispo. Hein,
Bon, en tout cas, la semaine prochaine, bon, ils vont sûrement se croiser, on l'espère, hein, les deux zigotos, là, pour avant de se mettre définitivement sur la tronche le dimanche suivant, puisque il reste encore le Go Home
Eh oui.
Show, hein, n'oublions pas. Mais avant ça, nous avons une autre belle affiche qu'on nous a offerte ce soir, Becky Lynch contre Charlotte, le fameux Money Maker, le fameux match Money Money, la rivalité Money Money, la Money Feud, comme on dit,
Oui.
qu'on essaie de vendre ici au supplément SmackDown depuis 1 an et demi, 2 ans. Et ben voilà, on l'a là, ou presque, puisque on a un affrontement pour un petit peu se chauffer, hein, se jauger entre Becky Lynch et Charlotte. Elles se sont cherchées un petit peu la semaine dernière. Un match qui joue vachement sur la symétrie. Elles s'échangent coup pour coup, le tout dans le respect, évidemment. En se faisant même un petit peu quelques courbettes, voilà, on se montre que voilà, on est à niveau, hein. Il n'y a pas de problème. Puis l'intensité monte, hein. Les comptes commencent à s'enchaîner. Certains sont d'ailleurs bien sentis, hein. Becky Lynch, elle arrive vraiment à bien bien contrer Charlotte. Ça, c'était plutôt pas mal.
Ouais.
Et à la fin, incroyable, mais vrai.
Incroyable.
Out of nowhere, on peut le dire.
Incroyable.
Une victoire de Becky Lynch. Déjà ça, tu dis, waouh, wow, t'es étonnant. Sur Charlotte.
Oui, plus qu'étonnant. Oui.
Avec une prise de soumission, donc sur ce round-bar. Ouais. C'était la totale. Je pense qu'on va avoir 3 ans de défaite de Becky Lynch devant nous. Là, c'est l'autoroute. Becky Lynch, donc, qui célèbre. Petite tension entre les deux. Est-ce qu'elles vont se saluer? Oui, oui, c'est bon, elles se saluent. Pas de problème. On reste pour l'instant en bonne entente. Mais écoute, j'ai beaucoup aimé, moi, cette passe d'armes là entre les deux. Ça faisait ouais. plaisir quand même de retrouver une Becky Lynch dans la compète, qui montre son niveau. Enfin, et en plus, on a une, enfin, cette petite rivalité entre les deux, quand même bien amenée, parce que on en avait un petit peu marre hein, de ce côté meilleure copine, hein, surtout que ça jouait vachement en défaveur de Becky Lynch, qui était vachement dans l'ombre du coup.
Oui, c'est vrai.
Mais ça m'a un petit peu, je sais pas toi, je me suis dit finalement, s'il devait y avoir un heel turn des deux, pour un petit peu rééquilibrer la balance heel face, on dit toujours Becky Lynch, Becky Lynch, Becky Lynch, mais Becky Lynch, c'est quand même une baby face dans l'âme. Elle a pas joué cette partie, enfin là, enfin depuis qu'elle a eu son titre il y a 2 ans là, on l'a jamais vraiment, ils l'ont jamais vraiment réutilisé en tant que telle. Alors que Charlotte, qui se bouffe défaite sur défaite, qui peut faire une heal formidable, est-ce que ça ne
Oui,
viendrait pas
qui
du
fait une
côté
île
de la
formidable.
famille Flair,
J'espère, j'espère.
ce petit transfert de rapport de force entre les heals et les faces dans le show bleu?
Ah là là, je croise les doigts, je croise les doigts parce qu'en plus, après, ça veut dire que peut-être qu'on aura in fine une revanche Asuka contre Charlotte avec Charlotte en heel. Donc, ça c'est pour plus tard. Mais oui, ce serait super. Oui, bah écoute, c'est sûr que ce serait mon scénario rêvé que Becky Lynch gagne le Money in the Bank et que derrière la frustration soit telle du côté de Charlotte que au lieu de venir congratuler son amie, elle turn heel et du coup qu'elle rentre en rivalité. Ce serait super, ce serait je pense également un excellent choix au niveau de voilà, il faut une heel forte à SmackDown de manière urgente quand même parce que je pense que Carmella pour l'instant moi j'ai pas de souci avec Carmella, elle tient bien son personnage. Ça me lasse pas mais je sais pas si je tiendrai le même discours dans 2-3 semaines après Money in the Bank. Donc il va falloir quelqu'un pour prendre la relève. Et Charlotte, pourquoi pas avec des filles en face comme Becky et Asuka pour la défier en heel, ce serait top. Donc oui, le match était top. Le match était top. Alors c'était pas le meilleur match de catch féminin de l'année, loin de là,
Non,
loin
évidemment.
s'en faut. Mais c'était super agréable. Moi, je suis pas très catch féminin de manière générale. Ça m'a fait plaisir de me réconcilier un peu avec le catch féminin, de dire que bah voilà, deux nanas qui gèrent leur sujet, qui savent ce qu'elles font dans le ring et qui peuvent pendant 8 minutes te proposer un beau spectacle, bah voilà ce que ça fait et ça fait plaisir en weekly de voir des matchs de qualité comme ça de filles. Là, c'était super carré, super propre, il y avait plein de bons contres. D'ailleurs, en parlant de contres, le contre justement du figure four en disarmer était super, j'ai trouvé à la fin, très très bien retourné, mais de manière générale, tu sens que les filles se connaissent par cœur. Donc c'était vachement plaisant à regarder. Et puis bah, cette victoire, là, j'étais tellement choqué sur le coup en fait que je savais presque pas quoi en penser parce que tu vois, normalement je devrais sauter au plafond d'une victoire de Becky Lynch. Je me dis c'est incroyable, c'est fantastique, elle a fait tap out Charlotte et tout, c'est super. Avec au passage le fait que c'est vrai que tu peux te permettre ça avec Charlotte parce qu'elle est tellement au-dessus que tu peux te permettre de faire ce genre de victoire flamboyante sur Charlotte. Mais le truc c'est que en fait, moi je serais ravi. S'ils capitalisent dessus, en fait, c'est un peu ça le
Ah
truc.
bah
C'est que
maintenant ils ont on les attend au tournant là.
là, c'est une victoire qui est quand même super importante. Alors les commentateurs, moi, ce qui me fait y croire, c'est que les commentateurs avaient bien préparé leur petite phrase post-match. Ah, oh, c'est une victoire incroyable. C'est peut-être quelque chose qui peut changer la carrière de Becky Lynch, machin et tout. Le momentum a complètement changé. Écoute, j'espère que c'est vrai. Et j'espère que c'est annonciateur. Moi, pour moi, derrière ça, il faut enchaîner en la faisant gagner la mallette. Moi, c'est mon truc, c'est ça. Il faut qu'elle gagne la mallette, ou alors il faut qu'elle soit directement impliquée dans le résultat et que derrière elle enchaîne sur justement une rivalité forte avec peut-être la personne qui lui aura empêché de gagner la mallette. Enfin, en tout cas, je sais pas, mais. Idéalement, moi, je préférais l'avoir gagné la mallette, mais maintenant, il faut capitaliser là-dessus parce que là, bon, bah, écoute, voilà. J'espère que c'est pas encore une énième fois une lueur sans lendemain qu'on nous
Il joue
propose pour
avec nos
Becky
petits
Lynch.
cœurs là, hein, avec
Je vais être nos petits cœurs. Encore une fois, ils vont réussir à. Voilà, ils ont ravivé la flamme. J'y crois. Maintenant, c'est mon pronostic.
Chaque fois, c'est une
C'est mon
espèce de vieille
pronostic.
braise qui reste du barbecue de la veille que... Oh, tiens, regarde, il reste
Ouais,
une petite braise. Tiens, ah, on reste encore un
voilà, un
petit
petit
peu.
coup de
Allez, viens.
sifflet. Ouais. Bon écoute, ouais, maintenant je croise les
Il
doigts.
faut un gros programme, Becky Lynch, mallette ou pas mallette. Il faut un gros programme. Il faut effectivement que déjà, un, il faut qu'à Money in the Bank, elle pète le feu, elle soit flamboyante et qu'elle soit impliquée un ou des gros spots, voilà, qu'elle soit un petit peu la Iron Woman, si je puis dire, de ce match-là. Après qu'elle décroche pas la mallette, pourquoi pas, il y a beaucoup quand même de potentiels catcheuses à qui ça pourrait profiter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas, comme tu le dis, ça peut pas être anecdotique, ça peut pas être anodin, cette victoire sur Charlotte Flair, qui effectivement est dans une période où, grosso modo, enfin, pas n'importe qui peut battre Charlotte Flair, mais là, voilà, c'est le bon timing, puisque ça profite à Becky Lynch et ça ne fait pas de mal à Charlotte Flair, de toute façon. En plus, à
Non.
la fin, ça reste très fair-play, etc. Ça rajoute au contraire un petit peu de tension et c'est bien d'avoir un peu de compétition entre les deux. Donc voilà, tu as raison, messieurs les bookers, messieurs les producteurs, messieurs
La
les
balle est dans votre
scénaristes, la
camp.
balle est dans votre camp et la balle est rousse. Il va falloir la saisir au bon pour enflammer la division féminine. On y croit, c'est l'année pour le faire. Ensuite, on revient à un autre business, à une autre promotion, celle de Big Cass, le grand dadais. L'homme
Le grand
qui
Dadais.
fait 7 pieds. Il est interviewé par René Young en haut sous le centron. Hein. Ils sont en haut de la rampe. Et du coup, Ebikas va donc dans une énième provocation, s'en prendre évidemment à Daniel Bryan. Alors René Young le titille un petit peu hein, à propos de sa défaite face à Daniel Bryan, tout en teasant leur rematch. Pour Money in the Bank, bang, pas mal ça. Donc voilà, on y va sur les blagues à coups de il est petit et moi je suis grand. Qu'est-ce qui lui sort d'accord? Parce qu'il a encore une promo qui a duré des heures et des heures, j'en pouvais plus à la fin. Parce qu'en plus c'était pas trop mal écrit une fois de plus, mais pour
Ouais.
délivrer, voilà, c'était encore un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui nous a sorti de beau le Big Cass, ouais, voilà, il disait que, ah oui, si, il nous a raconté quand même qu'il était à Mania 30
Ouais, à Mania 30.
qu'il était juste derrière Bryan quand il a gagné le fameux titre, hein, on s'en souvient encore et encore. Les draps
On
s'en
en
souviennent,
pleure
ouais,
encore.
les draps s'en souviennent, hein, chez certains. Et ça l'a mis en rogne, en fait. Ça l'a mis en rogne à l'époque. Il disait, sérieusement, là, ce petit nain, là, comme ça, là, il est totalement pathétique, il me dégoûte et c'est lui le champion. Et du coup, voilà, ça l'a travaillé depuis. En vrai, c'est un long process, hein, puisque 4 ans plus tard, ça y est, ça sort enfin. À Backlash, à défaite, c'était une grosse arnaque. Du coup, là, lui, il compte bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Il se sent triste hein, pour Daniel Bryan, qui étaient revenus ensemble hein, au même moment. Mais Daniel Bryan, voilà, il s'est jamais. Alors, ça m'a fait marrer. À un moment, il dit ouais, Daniel Bryan n'a jamais été dans un ring avec un mec comme moi. Mais bon, enfin,
Bah
si,
si si
ici,
si.
il y a 3 semaines,
Si d'ailleurs il t'a fait tap
il t'a
out
fait
d'ailleurs.
tapa, toi. Mais bon, pourquoi pas? C'était le petit truc un petit peu bizarre. Et donc, il lui promet hein, les pires choses. Qu'il va le démembrer, hein, grosso modo. Il va le démembrer, lui arracher ses bras, lui taper sur la tête avec, lui arracher les jambes et en faire des saucisses. Et qu'il va le renvoyer dans Total Bella, là, à jouer le nain de jardin. Parce qu'il n'est qu'un petit homme pathétique. Et quand on est petit, on ne peut pas survivre dans un monde de big men. Et que, grosso modo, un WWE, c'est un monde de big men. Et voilà. Alors, en plus, on avait tout un jeu, même si les réalisateurs, je sais pas, ils ont eu le déclic assez tardivement. Où tu avais les caméras qui se sont mises en dessous en fait de Big Cass, donc qui était en contre-plongée enfin à la fin de sa séquence pour nous montrer à quel point il était grand. Est-ce que tu as été impressionné par la grandeur de Big Cass?
Non, j'ai pas été trop impressionné. J'ai pas été très impressionné par la grandeur de Big Cass, mais j'avais plutôt l'impression de regarder un mauvais nanar où genre le stagiaire à la caméra s'est rendu compte que tiens, s'il faisait des contre-plongées comme ça,
Il aurait l'air
ah
plus
ouais,
grand.
il va avoir l'air plus grand. Ouais, moi je trouve que ça avait plus l'air con qu'autre chose de le filmer comme ça, mais bon. Donc j'ai trouvé ça un peu ridicule. Sinon. Malheureusement, c'est un peu une constante avec Big Cass, c'est-à-dire qu'on lui propose un bon texte, on va dire, un bon angle d'attaque. Moi, j'aime bien le fait que, ouais, t'as l'impression vraiment que elle est organique, sa haine pour Daniel Bryan, tu vois, genre elle vient de loin et à chaque promo on découvre un petit peu des nouveaux éléments. Enfin, en soi ça progresse, son raisonnement, son personnage, il progresse. On peut pas dire que ce soit inintéressant, que qu'il soit plat, que c'est pas vrai. Il y a un vrai développement dans son raisonnement et dans sa haine pour Daniel Bryan et dans son truc. Mais le problème, alors il y a plusieurs problèmes, c'est que déjà il y a son incarnation du truc qui est quand même, quoi qu'il arrive, on a beau lui proposer des bonnes choses, c'est un commentaire qu'on fait quand même souvent depuis un mois et demi. Il a un peu, je sais pas, c'est compliqué. Il essaye de se faire, alors tu l'as mentionné plusieurs fois, ce sorte de maniérisme à la Edge un peu, mais qui maîtrise pas complètement et qui fait que son ton est parfois soit saccadé, soit pas dans le tempo avec le public, ouais.
J'ai l'impression qu'il essaye de jouer un mec qui a un peu des tics en plus, tu vois, sur son visage.
Oui.
Toi,
il
bug comme si, toi, un peu le mec est un petit peu perturbé, un peu pas bien dans sa tête, toi. Mais il a l'air con en fait quand il fait ça. C'est. Ouais.
Et donc il y a du coup fatalement il y a un problème de charisme qui est terrible quoi. Ouais, Guillaume qu'en parle d'ailleurs sur le chat, ouais, en effet, le charisme, bon, ça s'apprend pas, mais en tout cas ça peut se travailler un petit peu, et pour le moment on voit pas trop. Et puis le deuxième gros problème dans cette histoire, c'est que il feude un peu tout seul avec lui-même quoi, en fait. Daniel Bryan a pas l'impression qu'il en ait grand chose à foutre en fait de Big Cass. Et c'est un peu ça qui est emmerdant, c'est que au final c'est bien beau de faire une super psychologie de personnage et tout, mais en fait Daniel Bryan, pour lui, Big Cass c'est derrière lui quoi. C'est il y a 4 semaines, il lui a réglé son compte. C'est fini. Et ok, il lui a peut-être tamponné le coquillard là il y a pas longtemps, mais à part ça. Tu vois, par exemple, Daniel Bryan n'est pas intervenu ce soir. Il s'en fout, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et ça dessert vraiment le propos de Big Cass, parce que c'est vrai qu'il aura beau nous sortir tout ce qu'il veut et l'insulter et lui dire qu'il le déteste et qu'il va le fracasser. Si Daniel Bryan lui répond pas ou a pas l'air impliqué, ça sonne creux, quoi.
Ah, il lui a répondu sur une petite vidéo sur le site de la WWE, quoi. Donc, voilà.
Ouais,
à la télé, on passe à côté, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est assez terrible la qualité, parce que je trouve que c'est la qualité, le soin qui est apporté au développement intrinsèque du personnage. Où effectivement, à chaque fois, on rajoute des couches. Voilà, des couches. Mmh. Alors, en même temps, c'est un gros bébé, hein, Big Cass, donc des couches, il faut en rajouter. On rajoute des couches comme ça sur la psychologie du personnage. Effectivement, on dit ça fait 4 ans en fait qu'il rumine.
Il court sur le haricot,
ouais,
le petit là.
Il rumine et tout. Enfin, c'est bien, c'est beau de faire ça en fait, d'aller chercher des choses comme ça assez loin dans le passé pour réécrire comme ça un personnage. Mais effectivement, enfin là il y a un gros souci de d'exécution et c'est vrai que c'est gênant quoi. Alors après le comment dire. Je sais pas vraiment là où tu as raison, c'est qu'effectivement en plus on est dans une situation où il est en mode désillusion, pardon, parce qu'effectivement il a perdu. Du coup, il fait non mais j'ai perdu, mais en fait j'ai quand même mis sa trempe, etc. C'est vrai que vu qu'en face Daniel Bryan n'est pas plus impliqué que ça, ça n'aide pas non plus quoi. C'est un truc que je reproche un petit peu aussi, c'est que on le laisse tout seul en fait. On le laisse tout seul, un peu Big Cass. Il doit un peu se débrouiller par lui-même. Donc, visiblement, on lui fait suffisamment confiance pour qu'il le fasse. Mais je sais pas, on devrait comme ça se rendre compte que c'est un petit peu compliqué et que il va droit dans le mur, là, finalement, pour l'instant, en tout cas. Donc je sais pas, je suis assez mitigé sur ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arrêter, toi, ou est-ce qu'il faut essayer de corriger un petit peu le tir pour... Parce que, finalement, ils ont quand même un bon perso avec une... auxquels ils ont accordé pas mal de temps, etc. C'est dommage de laisser comme ça des personnages sur la touche. Maintenant, après, si le catcheur est pas suffisamment talentueux pour le concrétiser, il va falloir laisser tomber et passer à autre chose, malheureusement.
Le truc, c'est et le risque aussi, c'est que s'il arrive pas à se transcender, on va dire, sur cette rivalité. Le risque, c'est que finalement, derrière, quand il va devoir enchaîner sur quelqu'un d'autre, comme quand même son personnage repose quand même à 90%, son développement scénaristique repose sur cette sorte de haine de Daniel Bryan, où des petits, on va dire. Parce que le truc, c'est qu'après, il risque, c'est vrai que s'il n'arrive pas à transcender un peu son personnage au-delà de ça, et à donner l'impression que, enfin, en tout cas, à pouvoir intéresser les gens à son histoire au-delà juste de ça, là, il risque un peu de s'enfermer dans ce personnage et devenir une sorte de stéréotype qui va très 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 vite s'éteindre, qui s'est éteint auprès déjà de pas mal de personnes, c'est je pense, hein. Mais qui va très vite s'éteindre, parce qu'au final, si derrière Daniel Bryan il feud avec j'en sais rien, enfin un petit ou un autre petit du roster et tout ça comme ça, après c'est terminé, enfin voilà, il fera rien d'autre. Donc ouais, il faut qu'il aille au-delà, il faut qu'il arrive à faire mieux que ça, quoi.
Ouais. Mais... Ah bah tu fais bien de parler de Sin Cara, écoute, belle transition.
Je t'offre la
Sin Cara, justement, en petite interview backstage, il nous explique qu'il était un mentor pour Cien Almas. Alors pour la petite anecdote, on est allé vérifier.
Est-ce que c'est vrai? Ah oui.
On est allé vérifier.
J'ai travaillé d'investigation.
Voilà, j'ai envoyé un détective privé.
Les équipes.
Voilà, ouais. On engage comme ça des personnes pour aller vérifier ce qui est dit, parce qu'on nous balance tellement de conneries.
Énormément de saucisses.
C'est
ça,
tellement
fois,
de saucisses,
ouais.
Que voilà, il faut. Et c'est à la fois vrai et faux. Voilà, donc ça t'avance beaucoup.
Ah.
Mais en fait, effectivement, Cien Almas, quand il était au Mexique, à la CMLL, il a été à un moment donné partenaire avec un certain Mystico. Un certain Mystico.
Ah.
Alors, Mystico, c'est l'ancien nom de Sin Cara. Mais Sin Cara a connu, ce n'est un secret pour personne, puisque ça a même fait l'objet d'une rivalité, alors que notre ami Giscard disparaît de l'écran. Mais ça fait... ouais, je ne te vois plus. On t'entend. Ah là, c'est bon. Voilà, on te voit.
Ok, pardon.
Pas de problème. Tu es... Voilà, on parle de luchador masqué, tu disparais. C'est quand formidable.
Mmh.
Et du coup, donc ce Mystico, ce Sin Cara, on se souvient, il a eu deux interprètes. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a même eu une rivalité entre deux Sin Cara.
Oui, c'est vrai. En fait,
le premier Sin Cara a vraiment été blessé, il est parti, et puis il est revenu, mais en fait, on a appris que c'était pas le même. Enfin, on le savait. C'est celui qui est devenu Unico après. C'était le
D'accord.
fameux Unico, qui après était avec Camacho. Mais bref. Donc, il y a eu deux interprètes de Sin Cara, en sachant que celui qui est là derrière le masque aujourd'hui, c'est le second, au final, hein. Donc, c'est pas le premier qui avait été signé en grande pompe, etc. Sauf que les deux, donc Sin Cara 1 et Sin Cara 2, ont tous les deux porté le nom de Mystico au Mexique.
Oh
il y en
là
avait
là.
Un qui s'appelait Mystico avec deux I, et l'autre qui s'appelait Mystico avec deux I, mais sur un des I, il y avait un accent.
C'est une blague ou
pas ? Non, non, c'est vrai. Mais c'était dans des fédés un peu... À l'époque, c'était dans des fédés un peu indés, toi, donc ça se croisait pas trop, et pas trop d'histoire
ça
de avec ça.
Ouais.
Mais après, Mystico 1 a signé à la CMLL, et Mystico 2 a signé dans l'autre fédération, la Triple A, je crois que ça s'appelle, la Triple A au Mexique.
D'accord. Oui, c'est une pierre, ça, non ?
Ouais. Et du coup, deux grosses fédés, les deux s'appellent Mystico, il y a un petit problème. Alors au début, Mystico, qui avait un accent, il a transformé Mystico par un Y, il a remplacé le I par le Y, mais ça n'a pas suffi, et du coup, Mystico 2 s'est renommé en... comment il s'est nommé ? Ah, c'était pas Unico, c'était pas... Incognito. Mystico 2 est devenu
Incognito.
Oui, donc
c'est vraiment une blague.
Non, je te jure, ce n'est pas
bon,
une blague.
Et chers auditeurs...
Ils se sont en Incognito. Et du coup, tout ça, le résultat de l'enquête que nous avons menée est que celui qui est sous le masque de Sin Cara aujourd'hui n'est pas celui qui était sous le masque de Mystico à l'époque et qui est donc été le célèbre mentor de Cien Almas dont on parle lors de cette interview backstage.
Ah.
Donc toute cette séquence est basée sur le mensonge. Et
donc Cien Almas a vu clair dans son
jeu. Cien Almas a vu clair dans son jeu, il est intervenu, il a passé à tabac Sin Cara parce qu'il n'est pas content. Et du coup, voilà, on lance enfin la première rivalité de Cien Almas et de son faux ancien mentor. Ils ne sont plus amigos. Ils sont dorénavant, je ne sais pas comment on dit, enemigo. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette première rivalité qui s'enclenche pour Cien Almas après ce résultat d'enquête que je vous ai partagé ?
Très bien, très très bien. C'est un bon choix, je pense. C'est, C'est un catcheur, c'est un catcheur expérimenté qui va pouvoir du coup proposer un match solide, tu vois. Enfin, ça va pas juste être alors pas au niveau compétitif, hein, parce que Cien Almas risque d'écrabouiller Sincara. Mais ce que je veux dire, c'est que il va pouvoir faire un job solide face à Cien Almas. Donc ça, c'est bien d'avoir un mec qui peut lui donner la réplique convenablement. Donc ça, c'est un bon choix. Ils ont trouvé un petit angle d'attaque qui vaut ce qu'il vaut,
Très bien.
mais qui est tout à fait acceptable.
Oui.
Et puis ça permet de donner un petit trait de caractère d'entrée de jeu à Cien Almas pour ceux qui le connaissent pas. Où c'est vrai que finalement, il y a un vieil ami qui essaye de renouer les ponts avec lui, mais lui, il est là, il est pour le business, il en a rien à foutre, et il lui casse la gueule. Donc du coup, c'est ce côté un peu impitoyable. Qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans son catch à Cien Almas. C'était bien, écoute, c'est efficace. Je peux pas dire qu'on trépigne à l'idée de voir le match entre Sin Cara et Cien Almas, mais ça a le mérite, on va dire, de bien mettre en place le personnage et de lui proposer un premier programme tout à fait convenable. Beaucoup n'ont pas cette chance, donc voilà.
Non, beaucoup n'ont pas cette chance, tu as tout à fait raison. Du coup, on bascule sur le gros main event. Je dis un gros main event parce qu'on a eu un gros match, mesdames et messieurs, ce soir. On a donc le New Day qui a affronté les méchants qualifiés pour Money in the Bank. Parce que finalement, SmackDown envoie trois émissaires qui sont des purs heels pour décrocher la mallette. C'est pas mal, c'est plutôt rusé, je pense, d'envoyer les mauvais, les sales gars,
oui, les plus fourbes,
les fourbes pour aller décrocher la mallette. D'ailleurs, beaucoup de mes pronostics, je pense que parmi les trois grands méchants qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont tout à fait de bon potentiel pour aller décrocher cette mallette.
Je dis que les deux mallettes vont aller à SmackDown.
Ça, c'est le.
J'annonce.
T'annonces? Ouais. Je sais pas, je me posais la question encore tout à l'heure.
J'annonce.
Ce serait un bon coup, parce que c'est vrai qu'on est dans une petite routine, on dit on va avoir une mallette à gauche et une mallette à droite. Mais ce serait un bon coup d'avoir les deux mallettes dans un show ou dans un autre. On en reparlera la semaine prochaine lors du Go Home Show, qu'on fera un petit peu l'état des lieux juste avant Money in the Bank, un petit peu nos pronostics pour voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, ce soir, on a le New Day qui fait une petite blagounette au Miz. Ils font semblant de venir s'excuser pour les pitreries qu'ils ont fait la semaine dernière. Et ils lui proposent de tirer au hasard dans un chapeau magique le nom de celui qui ira participer, donc quel membre du New Day participera à Money in the Bank. Il lui demande de mettre son petit masque de ninja là sur les yeux pour pas qu'il voit le Miz qui fait il est en mode série B là, le Miz là, faire ses trucs de ninja,
il sait tout faire.
C'est incroyable, le mec, incroyable. Il m'a fait beaucoup rire à Naruto. Et il plonge sa main, évidemment, ils l'ont remplacé par du sirop de pancake, la pâte de pancake, là, la pâte à crêpes. Alors, il est pas content, et du coup, Biggie est hystérique. T'as vu la tronche de Biggie quand il tient le chapeau?
Extraordinaire.
À mon avis, il faut aller sur jiffy.com, là, pour aller voir tous les trucs animés, les gifs animés qu'ils ont dû faire de cette séquence, parce que c'est pas possible. Biggie, là, t'avais les grosses veines qui ressortaient, il était tellement hystérique par sa blague.
Il était trop fier de lui.
Mais oui, c'est ça, trop fier de lui. Et puis là, après le bis, qu'il leur balance la pâte à crêpes un peu partout, là, c'est drôle, avec Mr. Booty. Et bon, écoute, ça faisait plutôt marrer. C'était pas mal grâce au travail des quatre zigotos, mais après, ça se retrouve entre les cordes, ce beau monde. Alors, on a Woods, qui subit les assauts du Miz, justement, le Miz, mais il est pas content, hein. C'est un peu de l'histoire du Miz, il va un peu se venger ce soir de la vilaine blague. Le tag, sur Big E, sur Kofi, qui déroulent leur grosse prise et Near Fall. Voilà, on est un peu dans la même veine que la semaine dernière, avec un gros match, une fois de plus, du New Day. Rousseff qui fait un blind test, le mec qui voit ça fait
des rap complètement.
Séquence karaoké pour reprendre le dessus. Duel de gros costauds. Hein. Il y a Biggie, il y a Rousseff, il y a du lourd là quand même. Là. Il y a quand même des petits gros, quoi, j'aurais tendance à dire. Des mecs qu'il faut pas emmerder. La baston continue. Le Miz, un peu plus tard, va chercher les pancakes pour les lancer sur Biggie qui est pris en tenaille par ses sbires, ses acolytes plutôt. Sauf que, au lieu de lancer sur sa cible, sur la victime, il les lance sur Rousseff et sur Samoa Joe. Et il se fait du coup allonger par les deux, je crois, oui, c'est ça. Il se fait allonger par les deux, qui s'en vont, qui l'abandonnent. Et du coup, le Miz se prend le finish, la big ending.
Midnight Hour.
Midnight Hour, voilà, exactement, merci. Et se prend cette fois-ci le tombé, lui qui avait fait le tombé la semaine dernière. Gros match une fois de plus. Le New Day là, on l'avait dit la semaine dernière. Je sais pas s'ils avaient encore à le prouver, mais c'est le contrôle qualité
Au top.
sur le catch là. On était bien avec le Miz, le petit fond. Il y avait même un petit peu de, il y avait de l'histoire. On avait en plus là dans le lot les six potentiels participants au Money in the Bank. Donc effectivement, il fallait les montrer. Ces bonhommes, et on les a
Oui.
bien montrés là.
C'était top. Enfin, ouais, tu dis, enfin, le New Day, c'est le contrôle qualité du catch par équipe. C'est vrai que à chaque fois, en fait, moi, quand je vois des matchs comme ça du New Day, je me dis, il va falloir y arriver quand même, un de ces quatre, mais ils sont presque indissociables tellement ils sont forts ensemble. C'est vraiment pour moi, c'est la définition même du catch entertainment par équipe que j'adore regarder. Enfin, ils sont juste trop fun, trop sympa à regarder. Enfin, c'est super. Donc chaque match, en ce moment, ils sont vraiment autant. On parle de Seth Rollins là qui roule sur la divi enfin sur le catch solo, on va dire le 1 contre 1 depuis des mois en feu. Le New Day, pour moi, c'est le catch par équipe. C'est eux qui dominent la enfin le enfin c'est eux qui masterisent le domaine quoi en ce moment. Donc chaque match est une attraction et encore une fois, bah, ça n'a pas loupé. Moi, je me suis éclaté. C'était un super main event avec, je pense, le bon résultat dans le sens où c'était facile, voilà, une team de trois heels qui vont s'affronter dans 2 semaines pour Money in the Bank n'avait quasiment aucune chance de s'entendre. Donc voilà, ils l'ont fait sur l'angle de la comédie. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Le Miz qui balance les pancakes et du coup Samoa Joe et Rusev qui se regardent, ils disent qu'est-ce qu'on fout là? Vas-y, allez. Et il le sèche et il dégage. Ils disent allez, fin de la mascarade. J'ai trouvé que c'était pas mal.
Ouais.
Et puis
Tu
le Miz,
ouais, vas-y.
enfin moi je trouve que pour moi la star, enfin la star du match, au-delà du New Day, pour moi c'est un peu le Miz parce que en fait il montre qu'il sait vraiment tout faire quoi. Enfin genre c'est dans des matchs sérieux, il peut faire le heel en péril, le heel fourbe qui triche, le heel complètement pathétique, comique, tu vois, genre comme ça dans des matchs comme, enfin il sait vraiment, il sait tout faire quoi. Donc tous les matchs aussi où le Miz est depuis quelques semaines sont top. C'est aussi un point, un dénominateur commun de pas mal de bons matchs. Donc voilà, et puis cette promo, j'étais mort de rire. Alors je sais que le trip pancakes plaît pas à tout le monde, mais le Mr. Buttersworth là, et puis le Miz qui, tu vois, le Miz, ça se trouve c'est des conneries, mais genre ça se trouve on s'est foutu de sa gueule backstage avec son nouveau costume en lui disant ouais, tu ressembles à un ninja, t'as l'air débile et tout, je sais pas quoi. Et bah lui du coup,
Et
bah il en joue.
ouais, il plonge.
La semaine dernière, il s'entraînait, tu sais, il demandait à Cesaro et Sheamus de lui envoyer des pancakes pour faire des entraînements ninja à l'aveugle. Tu sais, il se mettait son bandeau à l'aveugle pour faire les entraînements ninja et tout. Bah voilà, cette semaine, du coup, il faisait encore son sorte de shadow ninja dans le vestiaire et tout, machin. Écoute,
J'imagine
c'est.
bien des séquences où il se cache, tu sais, au-dessus des vestiaires, justement, faire le mec qu'on voit pas de caché derrière un pot de fleurs et
Ouais,
tout.
ouais. Donc, écoute, c'était très drôle. On continue, mine de rien. C'est vrai que je m'y attendais pas trop, mais on continue à jouer sur l'indécision totale, le New Day
Je te l'avais dit.
qui ne prend pas du tout le Money
Non.
in the Bank au sérieux. Et en fait, je trouve ça pas mal. C'est vrai que c'est un trait de caractère qu'ils ont, le New Day, de manière générale. Ils prennent rien au sérieux, quoi. Ils prennent rien au sérieux jusqu'à ce que ça devienne vraiment très concret. Ça avait été le cas avec les Usos. Ils n'arrivaient pas à prendre la compétition avec les Usos au sérieux jusqu'à ce que vraiment on rentre, enfin qu'ils aient fait 4-5 matchs avec eux. Bah, finalement, ils sont en train de nous refaire un peu le même truc. Ils passent à côté de l'événement entre guillemets parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision. D'ailleurs, peut-être qu'ils veulent pas prendre une décision. Donc, on ne sait pas.
Ouais.
On ne sait pas.
Non, non, ça va probablement. Faut aller jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'il faut que ça se décide. La surprise soit à Money in the Bank. Maintenant, enfin, il n'y a plus rien, plus le temps de raconter quoi que ce soit d'autre. Il reste plus qu'un épisode.
Je trouverais quand même dommage
Ouais.
que ce soit un vrai pur tirage au sort le jour J, quoi. Je trouve que ce serait dommage.
Bah, je sais
On passerait
pas.
à côté de pas mal de
Ils
choses.
sont facétieux, ils sont facétieux. Je sais pas. Après, je vois pas comment ils pourraient déterminer, toi, l'heureux élu, autrement que par tirage au sort. Ah, peut-être en faisant une petite compétition entre eux, j'en sais rien, mais Je sais pas, hein,
Est-ce que
quand.
ce serait, est-ce que ce serait, est-ce que ce serait marrant, par exemple, de voir, genre, par exemple, la semaine prochaine, c'est le Go Home Show, Paige qui en a marre,
Elle
genre,
fait un triple frite.
et elle fait un triple threat entre les
Ouais.
trois.
Ça serait pas
Ce serait
mal.
rigolo. Ce serait
Ouais.
rigolo.
Là, bonne idée. Voilà, bonne idée, monsieur Giscal.
Après, je dis pas que ça se trouve, il y aurait peut-être pas un finish, il trouverait un moyen de. J'en
Je
sais rien.
sais.
Mais ce serait rigolo, tu
Ils
vois,
vont
genre,
se faire un
Paige qui commence
tombé
à.
comme ça en triangle où ils sont les uns sur les autres et en fait, bah. L'idée, les trois gars. Ce serait drôle.
Sous une pile de pancakes.
Non mais attends, tu
Non,
rigoles,
mais.
ils font ça et ils ont le finish là et comme ça, bah, on continue à ne pas
Ils vont
avoir
tous les.
de.
Ouais. Ou alors ils vont tous les trois dans le Money in the Bank, et puis du coup, ouais.
Ouais, non, effectivement.
Non, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir Paige, GM de SmackDown, qui n'a pas l'air de s'intéresser à cette problématique qui est quand même importante. On ne sait toujours pas qui va représenter SmackDown à Money in the Bank. Donc elle pourrait, pourquoi pas, s'énerver un peu et dire écoutez, les gars, c'est bien rigolo là, mais bon, ça suffit,
Ça peut
vous
être
allez régler ça dans le
ça
ring.
peut être l'objet du Go Home Show après tout, voilà, maintenant
Ouais,
on
ça
est
peut être tout l'angle du Go Home
ouais,
Show.
carrément, effectivement, où tu
Parce que de toute façon, le reste est vendu, hein. Enfin, voilà,
c'est
donc
le
bon.
dernier véritable mystère qui plane sur la carte de ce pay-per-view toujours très attendu. Je fais une petite dédicace quand même à Kofi qui nous a fait ce petit
Ah oui.
springboard là sur
Incroyable. En
En
trompe-l'œil, hein.
trompe-l'œil, là, un peu à la manière d'AJ Styles, hein. On s'en souvient qu'il avait armé son phénoménal forearm et qui en fait était redescendu de la corde. Mais là, c'est pareil, Kofi qui arme son saut et puis en fait qui se lance en arrière sur Samoa Joe. C'est vraiment ouais, le trompe-l'œil, genre, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas,
Mais
je
lui,
croyais que je voyais
ouais,
en 3D, mais
lui,
en fait, non.
ça fait 3 semaines que à chaque fois il nous invente des trucs. Il est en forme en ce moment, Kofi, hein, parce que
Créativité.
déjà la fois où il avait sauté par-dessus l'épaule de Cesaro pour faire pour retomber sur Sheamus et tout là, la semaine dernière, enfin c'était la semaine dernière, 2 semaines, je sais
Ouais.
plus. Enfin c'était, il propose des trucs en ce moment, top, top, top. Kofi est très, très en forme. Hein, ouais.
Kofi en forme, le New Day en forme et SmackDown, ma foi, plutôt en forme. Et du coup, ça va être l'heure du mot de la fin. Donc, si tu veux bien, Giscal, nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, je vais commencer par mon flop. C'est le seul truc, c'est le seul truc que j'ai pas aimé cette semaine, quasi. Moi, c'est, je vais le donner au roll-up là de Karl Anderson sur les Bludgeon Brothers. Mais de manière générale, on va dire au traitement des tag teams. C'est dommage parce que c'est dommage. Je pense quand même que vu le souci qu'il y a manifestement partout, hein, dans toutes les autres divisions de SmackDown, que ce soit chez les filles, on essaye de raconter des belles choses avec. Bon, c'était raté, mais on essaye de raconter des choses avec Asuka et Carmella. On essaye de faire des trucs avec Becky Lynch et Charlotte. On fait autour du Money in the Bank, on fait des belles choses avec la scène Main Event aussi. Avec Big Cass, même si on n'aime pas, on essaye quand même de faire des choses. Les tag teams, c'est les seuls avec qui on n'essaye pas du tout. Enfin, ils sont vraiment laissés pour compte et je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai du mal à entendre un argument qui serait que. On n'a pas de temps d'antenne suffisant pour eux, je ne suis pas d'accord. Il y avait 6 semaines avant Money in the Bank quand même. Voilà, je suis pas très content des tag teams et de ce qui s'est passé cette semaine, surtout pour les Good Brothers. Et puis bah, après, mon top, voilà, mon top, j'en avais plein. J'ai eu plein de moments
Ah, il va
forts là, dans
falloir
cette émission.
choisir, monsieur.
Mais je vais choisir, et pour moi, ça va être la séquence du stylo avec Nakamura qui
Séquence.
était. Le point d'orgue, enfin vraiment, autant je suis pas un grand fan de son heel turn, mais alors là il me fait pas mentir en une seule séquence, mais qu'est-ce que c'était bien fait, qu'est-ce que c'était bien foutu, et qu'est-ce que ça donne envie justement de voir AJ Styles lui claquer le beignet et de voir enfin ce blow-off, quoi, enfin cette feud, on se remet enfin la tête dedans, donc j'ai trouvé que c'était top, et je vais donner mon top, et par contre sur la note. Eh bien, écoute, je vais, malgré toutes les choses positives que j'ai pu dire, les petites erreurs à droite à gauche, les petits
Oh, on va
trucs un
être
peu
en
moins
dessous de
bons,
4 là.
on va être en dessous de 4, mais je vais quand même mettre 3,5, parce que ça reste de la bonne qualité. Mais voilà, je trouve qu'il passe à côté de choses un peu faciles qui seraient meilleures avec Big Cass, avec Carmella, avec Asuka notamment. Donc je reste un petit peu en dessous, mais voilà.
Ok, bah écoute, effectivement, je partage beaucoup de tes points positifs et négatifs. Moi, mon point négatif, je vais le donner à ce Big casse, là, qu'on laisse un peu tout seul, qui est un petit peu presque abandonné, alors qu'il...
Il est complètement abandonné.
Alors, j'ai l'impression on lui a juste laissé un bon scénariste qui écrit ses dialogues, ou alors un jour on va apprendre que c'est lui qui écrit ses dialogues, alors là je dis chapeau monsieur.
Ouais.
Et voilà, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il a abandonné là. Il a abandonné et que c'est un peu et ça me fait de la peine en fait, un peu de la peine un petit peu. Et mon top, bah écoute, je vais le donner à une rookie. Je vais le donner à Sonia Deville qui, alors c'est une rookie. C'était pas parfait ce match, mais dans les deux autres,
c'est pas mal,
les
hein.
Quelques minutes qu'elle a eu d'affrontement avec Atsuka,
ça marche bien.
Ça a bien marché. Mmh. Elle a vraiment son style à elle, évidemment inspiré du free fight, du MMA et compagnie. Et ce double kick, pardon, qu'elles se sont mises sur la tronche, et après la petite séquence là de compte sur les soumissions, ça m'a un petit peu agréablement surpris. Du coup, voilà, un petit top d'encouragement, Madame Deville. Continuer ainsi là avec Mandy Rose. En plus, je pense qu'on a là deux bons personnages. Ça reste des
rookies. Ouais,
ça reste des rookies. On a besoin de heal de main event. Hein.
Oui, je suis beaucoup plus intéressé par Mandy Rose et Sonia Deville que par Liv Morgan et. Et je sais même plus son nom d'ailleurs à l'autre.
On a gagné au change hein, là-dessus. Même si, comment elle s'appelle, Ruby Riott se débrouille pas trop mal du côté rouge. Mmh. Mais bon, on a gagné, je pense, au change. Ça, il n'y a pas de doute. Et moi, ma note, je vais mettre un 3,75. Puisqu'effectivement, il y a beaucoup de qualité. Que ce soit entre les cordes et même dans le... l'intérêt que semblent redonner les scénaristes à l'écriture des personnages et des rivalités qui sont vraiment au cœur du catch. Mais on a encore un petit cran dessous, c'est vrai que ça fait mal. Tant qu'on n'aura pas donné tant qu'on s'occupera pas bien de la division tag team, sera toujours un petit peu difficile d'aller au-dessus de cette note-là. En tout cas, on est impatient de voir le Go Home Show, hein, voir ce qu'il nous propose, notamment du côté du New Day. D'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre hein, toujours sur YouTube, Catch-up CDC pour la vidéo, mais également en audio sur iTunes, sur PodCloud. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, Catch-up CDC. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop et votre note. Un petit pouce, partagez. N'hésitez pas, on remercie encore tous les gens qui étaient sur le chat, sur le live. Merci de nous suivre chaque semaine. On vous se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, il y a un petit NXT tout seul, NXT tout seul, faut que je le prononce bien, avec l'amiral Ambar qui normalement enregistre d'ici la fin de la journée. Voilà, il fallait aménager notre planning. Donc c'est sympa. À NXT, c'est pareil. Ça envoie du lourd, ça envoie du bois.
Ouais.
La preuve, on sera lundi soir. Une partie de l'équipe sera là lundi soir pour NXT Paris. Encore merci à toi Giscal évidemment pour ta fine analyse, ça fait plaisir de t'entendre
merci,
comme ça.
Merci à toi IRM, je suis content de t'avoir retrouvé après cette interlude d'une semaine, un intérim que Ringside a magnifiquement réalisé, même si bon, il a dit des choses qui sont fausses et, évidemment comme d'habitude,
mais
et c'était quand même fait avec la bonne humeur.
Voilà, il a un petit peu essayé de s'aborder un petit peu le show bleu, c'est la jalousie.
S'aborder le show bleu,
oui, alimenté par la jalousie et la haine. Tellement aigris qu'ils sont à devoir regarder Monday Night Raw, on les comprend.
C'est pas facile, non. On les salue et d'ailleurs, pour ceux qui ont perdu espoir et ne regardent plus Raw, chers auditeurs, allez regarder les podcasts parce que au moins à la limite ça vous redonnera le sourire parce qu'ils arrivent à rendre, on va dire, une période morose un peu plus sympa. Donc remplacer le visionnage d'Euro par les podcasts de la Team Rouge.
Ouais, effectivement, c'est quand on touche le fond que voilà, il faut se regrouper et voilà, faire parler le rire et l'humour. Et ça, ils le font très bien. Bon, et ben, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut, salut.
Allez, ciao tout le monde.
Ils en sont où là?
Bon, il y a 3-0 pour Golden State.
Au bout d'un, d'accord.
Ça va être rapide comme prévu.